culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Un thème, un sujet, le jihad, la guerre sainte, on en a tellement parlé ces derniers temps, elle est comme naturellement, immédiatement associée à l'islam. Certains de nos jours, face à ces événements que nous recevons de toutes parts, après évidemment le 11 septembre, après... un certain nombre d'actes criminels et terroristes qui nous viennent notamment du Proche-Orient, notamment de l'Irak actuellement. Tout cela est conduit au nom du jihad. Beaucoup de politologues ont évoqué cette question par rapport à l'actualité. Nous recevons l'universitaire américain Michael Bonin, qui vient de consacrer un livre sur le jihad, mais alors beaucoup plus sur le jihad historique, je dirais. Il y a comme une volonté d'essayer de comprendre ce qui se passe de nos jours au nom de ce phénomène, parce que je crois que les choses ont beaucoup changé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, nous avons donc, après le livre très important de Moravia, consacré à la guerre sainte, en islam, au jihad, et qui a été donc réédité aux éditions Albin Michel, il est disponible donc chez... cette œuvre, je dirais, essentielle, qui est d'ailleurs citée et reconnue par Michael Bonin. Michael Bonin sait qu'il vient après le travail de Moravia. Alors, ce livre, Le Jihad, Origine, Interprétation, Combat, tel est le sous-titre d'un tel livre, qui paraît dans cette collection qui commence à s'étoffer. Ce livre qui a été donc traduit en anglais, est-ce que, Michael Bonner, est-ce que la première édition de ce livre est cette traduction française, non, ou nous avons une édition américaine?
Non, je l'ai rédigé la première fois en anglais.
Mais est-ce qu'il a été publié en Amérique?
Ça va être publié en anglais de la Princeton University
Press. Ah oui, d'accord. Alors,
ce sera une version un peu plus longue.
Michael Bonner, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est que vous vous mettez dans un champ tout autre, qui est vraiment celui de l'historien, qui essaie de comprendre, qui essaie de travailler à partir des sources, sans la moindre trace de polémique, sans la moindre volonté de faire en sorte que les événements actuels, qui peuvent être parfois vécus de part et d'autre d'une manière douloureuse, en essayant un peu de cantonner, même si c'est très difficile, il faut le dire, puisque ce nom, ce concept, cette notion qui semble si centrale, qui semble structurelle sinon en islam, on l'entend aussi dans l'actualité.
Une fois qu'on se met là-dedans, la chose a une fascination qui vous porte, qui vous traîne, qu'on voit même dans le livre de Moravia dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai quand même, oui, que les polémiques ont sévissé sur ce thème, surtout depuis 4 ans, mais avant aussi.
Depuis toujours,
Depuis toujours, mais depuis 4 ans surtout. Par exemple, il y a un article est paru dans le New York Post il y a 2 ans, à la fin de 2002, par... un monsieur qui s'appelle Daniel Pipes, si vous connaissez la situation américaine.
Je connais bien Daniel Pipes parce que je ne me suis pas senti personnellement les écrits que je fais comme anti-américain, et sous sa plume, je me découvre un des ennemis de l'Amérique.
Ce que vous n'êtes pas, je crois bien.
Oui.
Bien sûr, la chose est compliquée, mais il y a la guerre aussi bien que la paix, comme j'essaie de le démontrer.
Pas seulement ça. Ce qui m'a saisi dans votre livre, et personnellement, vraiment, ça a été pour moi précieux de lire ce livre, parce que dans la polémique et la manière avec laquelle on veut rendre consubstantiel de nos jours, jihad et islam, religion qui soit une religion de qui ne peut se penser que comme religion de la violence et de l'hégémonie, et qui a été pensée ainsi du reste déjà à l'époque médiévale par l'Occident. Mais votre livre rappelle aussi quelque chose qui me paraît très important, c'est que quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, le djihad a été le moteur de l'histoire de l'islam.
Le moteur.
Je pense, en le lisant.
Un grand moteur.
Un grand moteur.
Si le livre de Morabia a un défaut, c'est qu'il tend parfois à tout expliquer à travers ce concept. Bien sûr, c'était une thèse d'État française, comme on,
à l'époque,
oui, il fallait tout expliquer, d'accord. Mais souvent, les juristes musulmans pensent dans ces termes-là. Lorsqu'on a une base du genre, alors on tend à absorber beaucoup de choses. Mais quand même, oui, c'est une chose très importante à comprendre. Une chose que je voudrais souligner, c'est déjà dans le sous-titre, c'est-à-dire les origines au pluriel.
Les interprétations au pluriel, oui. Les combats au pluriel.
Oui, tous les trois. En parlant d'origine, c'est une chose que j'ai essayé de souligner, que bien sûr, le djihad, comme l'islam lui-même, a son origine dans la Médine du prophète et dans l'expérience de la première communauté, sans doute. Mais en même temps, d'autres sociétés bien diverses entre elles ont pris le ressort, ont ensuite fleuri à travers ce même langage, presque.
Et ce n'est... Vous pensez à qui, par exemple?
Par exemple, l'Espagne musulmane, ce qui était, on peut bien le dire, selon beaucoup de critères, une société de frontières. Mais le Maghreb, beaucoup, de grandes parties du Maghreb aussi, l'expérience des Almohades, etc. Aussi, la frontière de l'Est, la frontière orientale. Byzance, mais je pensais d'abord à l'Asie centrale, les Samanides, etc.
Vous rappelez, Michael Bonner, quelque chose peut-être qu'on a tendance à oublier et qui est une évidence, même si la notion va évoluer, même si la notion va être pensée d'une manière multiple, avec beaucoup de nuances par les docteurs de la loi, de djihad, mais que... elle est là. Elle est là dès l'origine. Elle est dans la matrice coranique. Certes, elle n'est pas mécoise, mais elle est médinoise. Elle ne correspond pas autant mécois de la prédication prophétique, mais autant médinois. Et que on ne peut pas comprendre, parfois dire les choses d'une manière aussi simple et nous ramener à des évidences me paraît important. Ce qui semble être une... énigme que, même si on peut l'expliquer de multiples manières, mais qui reste quelque part, qui porte encore sa part d'énigme, je dirais, cette fulgurante conquête des Arabes, en 30 ans, donc, cet empire immense qui a été taillé, mais d'évidence, si ce phénomène a eu lieu, c'est en raison du djihad comme moteur.
On peut le dire, mais il faudrait entendre quand même par djihad un héritage, disons, assez complexe. Quoi que ce soit, ce n'est pas seulement une histoire de guerre et de conquête. Peut-être dans le chapitre 2 sur le Coran et l'Arabie, n'est-ce pas? Je fais un contraste, d'abord un contraste, dans ce que j'essaie d'appeler l'économie coranique. Entre d'une part... Et nous, ici, nous parlons d'abord de l'Arabie, juste avant l'islam, l'Arabie pré-islamique. Mais une économie de guerre, si vous voulez, où le Coran légifère, etc.
Législatif.
Oui. Mm. Mais d'autre part, vous avez toutes ces choses relatives à la pauvreté, à la générosité, à la charité.
Oui, vous pas développer toute cette théorie du don et vous intégrer... Oui. La circulation du don en lien avec cette notion.
Oui.
En rappelant aussi, d'ailleurs, que cette notion, le mot lui-même, dans l'acceptation qui sera la sienne par la suite, c'est-à-dire djihad équivalent à guerre sainte, le mot lui-même n'existe pas dans le Coran, n'est pas utilisé comme tel.
Comme tel, non. C'est djihad ou djihad en kabir, mais il n'est pas clair dans ces cas-là ce que ça, ça veut dire exactement. Le mot djihad, quand ça apparaît dans le Coran, c'est quoi, 10 fois peut-être que ça pourrait s'appliquer à la guerre. Mais quand même, la guerre se trouve dans le Coran, avec pour la plupart d'autres paroles.
Et donc, ce rapport entre don, réciprocité, c'est là où vous situez la question du djihad?
En partie. Parlons d'abord de ces deux choses comme thèmes coraniques. On peut les contraster, comme j'ai essayé de faire, mais aussi il y a une relation étroite et logique entre les deux. Le guerrier, comment fait-il la guerre? Il n'y a pas d'armée organisée. Au début, il n'y a pas d'État. Et même lorsqu'il y a un État puissant, c'est encore très, même sous, comme par exemple sous les Oumayyades, sous le califat Oumayyade, c'est toujours difficile et compliqué de mettre ensemble tous les effectifs dont on a besoin, les payer, les armées, etc. Donc, les deux choses sont toujours entremêlées. La générosité dans le Coran et aussi dans les récits qui l'entourent, disons, les récits qui nous donnent le contexte historique pour tout cela, mettent beaucoup d'emphase sur le fait que, sur le mérite que reçoit celui qui donne aux guerriers ce dont il a besoin pour faire la guerre.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État qui octroie les armes, qui octroie le cheval.
Non. Et dans le Coran, on s'en
vous parlez même, vous évoquez pour cette question du don, vous allez jusqu'à évoquer Georges Bataille, la part maudite.
Oui, ça peut être mis en relation, oui. D'abord, il y a cela, que les deux choses, logiquement, vont ensemble. Mais je crois que aussi, il y a une connexion encore peut-être plus profonde qui revient à la fin du livre, que l'islam a eu un attrait à pas pour les gens, en Arabie et puis après dans ces autres pays. Les gens ont voulu se battre pour cela. Et pas seulement parce qu'on leur offrait de se battre. Je crois que...
C'est-à-dire se battre pour une idée, c'est ça?
Oui, mais l'idée... Bon, Dieu, le Dieu transcendant, oui. Mais aussi l'attrait du... c'est un attrait, si vous voulez, économique en même temps. Cette idée de générosité a eu, je crois, pour les Arabes, d'abord, oui, ça a réglé un tas de choses pour eux. Et après, je crois aussi dans les autres pays de la région...
C'est-à-dire le fait qu'il y ait eu prise, il y a eu donc plus de stock pour permettre aux dons de circuler et pour permettre à ce qu'il y ait tout ce réseau entre dons et réciprocité.
Oui. Dans la Jahiliya, dans l'Arabie pré-islamique, il y a un problème avec le gaspillage, disons. C'est-à-dire, on peut l'exagérer. Non, si on veut parler de gaspillage, bon, regardez autour de vous. Mais quand même, on gaspille les ressources. C'est une chose qui est condamnée constamment dans le Coran et aussi dans le Hadith, dans les récits. Et en même temps, on se battait constamment. Alors ici, le Coran ne change pas tout ça. Oh, il faut encore donner ce qu'on a à autrui.
Mais il donne un autre dessin, quand même. Il rend le projet beaucoup plus vaste.
C'est réglé. Et en même temps, on se bat encore, mais pour d'autres buts plus,
plus larges, plus vastes.
Plus larges, oui. Mais les deux choses vont ensemble.
C'est-à-dire que vous pensez que c'est la même structure de ce ludique du combat en lien avec le don, avec la générosité. C'est cette structure-là qui, sera peut-être beaucoup plus active parce qu'elle aura un enjeu plus considérable.
Je crois, oui.
24 months ago, and yesterday in the memory of America, the center of New York City became a battlefield and a graveyard and the symbol of an unfinished war.
L'étape d'après, dans le cadre de la conquête et de cette guerre donc faite au nom de Dieu et pour donc diffuser la parole divine et la religion qu'elle produit, on a abouti aussi à cette avec le butin spectaculaire qu'on va trouver et la distribution après.
Oui.
Et tout ça est légiféré à partir d'éléments coraniques.
Oui.
Cette notion de ata, d'ailleurs le mot même ata veut dire don.
Veut dire don, mais on ne trouve pas ça dans le Coran tel quel.
Tel quel, oui.
Et d'où ça vient, c'est intéressant si on consulte Tabari et les autres. Ils décrivent l'origine du diwan, des registres et de l'impôt, etc. Ils ne nous disent pas pour la plupart pourquoi on appelle ata.
Le ata, alors c'est le don qu'on accorde aux combattants.
Oui.
Est-ce qu'on peut appeler ça un salaire? Non.
Strictement non. Je crois que les juristes ont donné le contexte coranique dans le verset où il se traitait de ma'afa Allah, ce que Dieu a littéralement retourné à la communauté comme la base fiscale.
C'est pas cette notion de fadl aussi, de surplus, mm-hmm. hein, offerte par Dieu. Mm-hmm. Là aussi, c'est une notion qu'on trouve dans le Coran.
Oui, ça, certainement.
Ouais. Oui. Et ce sont toutes ces éléments-là qui sont donc restaurés avec le djihad, vous pensez? Et la récompense, en tous les cas.
Réinterprété. Je fais la distinction entre, d'une part, là, en parlant de la guerre, de la récompense que reçoit le guerrier, qui est souvent exprimée en termes commerciaux, mais d'autre part, la réciprocité que l'on trouve dans les relations de générosité et charité.
Oui, donc à la fois la rhétorique de la récompense plus que celle du don, finalement.
Oui, c'est la combinaison est très puissante, ouais. La combinaison de ces deux choses-là. Ouais. Et l'attrait du djihad même peut peut-être s'expliquer en partie par cela.
Ouais. Vous attachez beaucoup d'importance aussi à la notion de pauvreté, dans ce lien entre le mendiant, le combattant, le mendiant, le prophète. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, vous avez un regard positif sur le livre de Descobert.
Oui. Oui, le prophète
et le mendiant, vous en parlez, parce que ce livre a suscité une polémique terrible ici en France que vous rappelez,
oui.
Et refus un peu de cette thèse, que oui.
Ça m'a influencé dans oui. ce chapitre.
Que vous corroborez, quoi.
Oui, sans tout. Oui, on peut critiquer Descobert pour la mode dans laquelle il s'est servi des sources. Il aurait dû les consulter plus...
Précisément,
plus précisément, oui.
Mais la structure qu'il met en place vous paraît efficiente?
Le combattant n'est pas identique au mendiant.
Oui.
Et selon Descobert, ils ne font qu'un, si je me rappelle bien.
C'est ça.
Non. Et à la fin, je crois que ce ne sont que des métaphores.
Bien sûr.
Il ne faut pas exagérer. Oui. Mais l'idée du cycle de dons me semble assez juste.
Qui circulerait alors là du lieu de pauvreté
idéalement. Ouais. Puis là, dans la réalité, les choses se passent comme elles se passent.
Mais et est-ce que toutes ces questions, ce lien avec la pauvreté, le don, la récompense matérielle, mais aussi la récompense spirituelle, puisque aussi dans la mort va susciter une récompense post-mortem, toute cette théorie justement du martyr qui a aussi sa base coranique, même si la notion de martyr et le statut de martyr accordé à celui qui meurt dans le combat n'est pas aussi coranique, pas exactement, le terme est un peu plus tardif, mais il y a des bases dans tout cela. Est-ce que tout cela va conduire aussi à ces spirituels combattants, tous ceux qui peuplent les ribats, qui sont à la fois des lieux de guerre, dans les limesses, dans les zones frontières, mais en même temps des lieux de retraite spirituelle.
Souvent, dans bien de cas,
c'est presque la notion, si la notion de moine a un sens en islam, on parlerait là dans cette affaire de dons, récompenses, pauvreté, combat, on a presque affaire à des moines combattants.
Oui, dans bien des cas, on ne sait pas exactement ce qu'ils font là. Quelques-uns se battent, les autres sûrement pas. Mais oui, je crois que dans ces cas-là, c'est ce dont je parlais au début, c'est-à-dire la diversité, la multiplicité des origines. Dans beaucoup de sociétés différentes, de contextes historiques différents, des gens qu'on pourrait qualifier de savants, donc de comme possesseurs d'un savoir religieux, ont choisi de se rendre à la frontière et se battre en quelque manière. Et ça se répète toujours. Et oui, je crois qu'ils essaient de recommencer cette ancienne, si vous voulez, économie, oui. Parfois en se battant, parfois à travers les pratiques ascétiques ou mystiques. Et bien souvent, on ne sait pas exactement
Pour obtenir cette notion arabe que vous utilisez souvent, la notion de ajl, c'est-à-dire la récompense divine,
oui,
quoi.
Oui.
La récompense divine, oui. Qui peut s'avérer similaire au moyen de subsistance, la notion de rizq cette fois.
Oui.
Il y a une équivalence entre, et évidemment, la générosité, l'excédent, le fadl qui est déjà mentionné. Tout ce que vous aurez dépensé dans la voie de Dieu vous sera rendu et vous ne serez pas lésé, dit notamment le Coran.
Oui.
C'est ce type de matériaux scripturaires que vous utilisez pour essayer d'étoffer le réseau que vous cherchez à mettre en place.
Oui. Et ici, il y a le contraste entre la récompense matérielle de ce monde et aussi la récompense spirituelle. Il y a toujours la ambiguïté entre les deux.
Alors là aussi, ça engage deux formes de combat. Vous faites après donc, vous reprenez à votre compte la distinction que fait l'islamologue allemand Albrecht Nott, qui a beaucoup travaillé aussi sur cette notion de jihad.
Malheureusement, il est mort il y a quelques années.
Il y a quelques années,
malheureusement, oui.
Oui. Et vous essayez de reprendre pour votre propre compte la distinction qu'il fait entre guerre sainte et lutte sainte, un peu dans toute cette affaire.
C'était sa première thèse, fin des années 60. Il a et son livre était sur la guerre sainte et la lutte sainte. D'abord, la guerre sainte, c'est une chose qui se conduit d'abord avec l'État, avec des ressources que seul l'État peut trouver et gérer, pour des buts précis, de conquête, de défense, etc. Mais d'autre part, il y a ce qu'il appelle la lutte sainte, qui est une affaire de mérite religieux, où l'individu cherche à trouver du mérite auprès de Dieu. Et il y a toujours une tension entre les deux choses, selon Nott, parce que dans la lutte sainte, l'individu peut-être n'est pas tellement intéressé par le résultat du combat. Qu'il ait participé, peut-être ça peut suffire.
C'est une... Vous rappelez d'ailleurs l'importance de cette distinction pour la manière avec laquelle est instrumentalisé le jihad de nos jours chez les terroristes.
Oui.
Cette notion est importante, cette notion de lutte sainte, justement,
oui,
à distinguer de guerre sainte.
Puisqu'il n'y a pas ou il y a peu d'État dans ce cas-là. Oui. Ouais.
Et puis le fait, ce qui compte le plus parfois, c'est peut-être justement de participer et d'obtenir la récompense supposée.
Oui, oui. Alors le discours moderne sur ces choses-là s'avère bien compliqué parce que vous avez des penseurs islamistes qui partent du djihad et qui s'intéressent au rôle de l'État, de l'imam, etc. Mais ces autres, non.
Aussi que, évidemment, tout cela est en lien avec toute la littérature des ce qu'on appelle les marazis, des conquêtes, quoi, que cette notion apparaît, et que c'est dans ce cadre-là que, petit à petit, se mettent en place les normes qui vont la constituer, sa théorisation, avant peut-être qu'elle soit prise en compte par les jurisconsultes directement.
Ah, le djihad.
Oui.
C'est-à-dire les récits de l'islam des débuts, les récits, surtout la Syrah, les
Marazis. La Syrah et les Marazis, c'est ça.
Oui, qui concernent pour la plupart la vie du prophète et aussi, dans quelques situations, la période qui vient juste après. Il y a une notion de djihad qu'on peut isoler dans ces textes-là, mais c'est moins développé, sans doute. C'est dans le hadith surtout que l'idée de djihad vient se pose comme avec ses tous les défis. Mais comment ce qu'on voit dans les Marazis, c'est que des fois, si on commence à parler d'une action accomplie par quelqu'un, c'est-à-dire ce serait une petite bataille, un raid. Mais lorsqu'on commence à citer beaucoup le Coran, c'est dans ces cas-là qu'on peut parler plutôt que de djihad. Mais toutes les problématiques du djihad ne sont pas, on les trouve, oui, mais moins que dans le hadith et moins que chez les juristes.
Il y a déjà la distinction entre le simple combat et le djihad authentique dans les Marazis, non?
Moins.
Moins.
On peut le trouver, oui.
Oui.
Sans doute dans Al-Waqidis, oui, ça.
Oui.
Oui. Mais moins que dans le hadith. Parce que dans le Marazi a comme protagoniste, bien sûr, le prophète, mais aussi, on met beaucoup d'emphase sur la communauté.
Alors là, vous reprenez un peu la théorie qui a toute une histoire et qui essaie de concentrer John
Wansbrough
sur de secteur et de milieu, c'est-à-dire cette idée que il voit dans toute cette littérature plutôt ce qui est impliqué, c'est le Proche-Orient urbain et une concurrence finalement entre divers sectarismes en fait.
Oui.
Hein, et ce qui compte le plus. Ce qui est en jeu pour les individus est le choix de la communauté. De ce point de vue-là, donc l'islam se situe comme communauté en concurrence avec d'autres communautés déjà constituées.
C'est-à-dire, vous devez faire votre...
Presque trouver sa place, quoi. Comment trouver sa place dans ce qui existe déjà?
Mais quand on s'adresse à l'individu, choisissez la bonne communauté, choisissez celle-ci. Il y a des problèmes là-dedans, parce que l'islam n'est pas une communauté comme toutes les autres. Elle est déjà... elle est au pouvoir... Mais cette histoire du salut, oui, ça a du sens dans le cas de la littérature marazi, oui. Et alors le djihad.
Donc le djihad, essayer de trouver le salut, en somme.
La notion même de marazi, qui est parallèle, à, marazi veut dire lutte au pluriel.
Raza, ça veut dire conquérir, oui, ça veut dire c'est ce qui donne razia d'ailleurs en français.
Oui.
Le raid, la notion de raid aussi.
Et ce sont des orientalistes qui ont exprimé l'idée, mais peut-être qu'ils ont raison. C'est le concept de Marazi pouvait avoir ce sens-là de lutte spirituelle aussi.
On a parlé de la même chose pour le djihad, vous le savez.
Oui, oui, voilà. Les saints chrétiens, par exemple, ont lutté intérieurement, etc. Et voici, c'est compréhensible pour eux. Mais la question ressemble au djihad, mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est dans le hadith, dans les traditions prophétiques, surtout que le djihad émerge comme...
Alors là, comme édifice...
Reconnaissable pour nous.
Oui. Et qui va essayer donc de légiférer pratiquement, hein, d'organiser la conduite de la guerre, sa direction... cette notion de jizya, le tribut, la place justement du lien entre ascétisme et combat, et la notion de martyr alors, qui va être aussi mise en place un peu plus tardivement dans le hadith alors, éclairé.
Oui. Oui.
Et là aussi, vous rappelez le terme, le fait, puisque la racine shahada qui dit martyr est exactement la même qu'en grec. Au départ, c'est un terme juridique.
Oui.
C'est celui qui témoigne.
Ça veut dire le témoin.
Et dans le Coran, c'est un terme qui est beaucoup plus utilisé pour Dieu. Dieu qui témoigne, Dieu qui sait tout et donc qui est témoin du monde.
Et les personnes aussi.
Et les personnes...
Mais pas dans le sens de celui qui meurt au combat.
Dans le sens juridique.
Oui.
Dans le sens de celui qui meurt au combat, ça viendrait plutôt, ou plutôt qui meurt pour la religion, parce que le chrétien ne meurt pas au combat, il meurt pour la religion, il se sacrifie pour la religion, pour témoigner de la religion. Cette notion-là, via le syriaque, où nous avons donc une racine qui est la même à peu près, c'est-à-dire racine témoignée, que le terme va émerger pour le martyr sur la voie de Dieu, c'est-à-dire dans le combat.
Oui, et je suppose qu'on ne sait pas exactement quand et comment, mais la logique est la même. Et les martyrs chrétiens ou musulmans ont beaucoup en commun. Oui, bien sûr. Mais quand même, dès le début, le martyr musulman a cette caractéristique qu'il meurt vraiment au combat et non pas au combat symbolique comme son équivalent chrétien, dès le début.
Et alors, pour ce qui concerne les mérites du djihad, de nombreuses traditions, sans offrir de matière doctrinale, parle justement de ces lieux, comme le Ribat, par exemple. Vous nous rappelez que plusieurs de dits attribués au prophète sont rédigés selon ce modèle. Un jour de Ribat dans la voie de Dieu est meilleur que je ne sais quoi. Donc,
je crois qu'un des caractéristiques du djihad, tel qu'il émerge dans le hadith, par exemple, est cette combinaison de matières juridique, si vous voulez, y compris toutes ces matières de sillage, de conduite de la guerre, et d'autre part, l'exhortation sans cesse. Cette combinaison est très caractéristique. Et si on énumère les thèmes du djihad qu'on trouve dans le hadith, on commence à avoir tout un petit résumé de l'idée de djihad, comme j'ai essayé de faire.
Et vous en venez finalement donc à la question de la bonne intention, l'homme qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, celui-là combat dans la voie d'Allah, le lien avec le djihad intériorisé. Voilà. Ce que beaucoup évidemment estiment, et ils disent que c'est ce qu'on appelle le djihad al-akbar, le grand djihad, qui serait plus important que le djihad mineur. Mais là aussi, vous nuancez, vous articulez les deux. Presque l'un ne va pas sans l'autre, tel que vous essayez de le dire.
Et on peut même dire aussi que le djihad intériorisé est là depuis les débuts. Par exemple, dans le Coran, quand on a la parole djihad ou d'autres mots dérivés de la même racine. Pour la plupart, il me semble qu'il ne s'agit pas de la guerre. Parfois, si. Mais pour la plupart, je crois que non. Et ensuite, cette histoire dont nous venons de parler, des marazi, c'est une lutte spirituelle, quoi qu'on l'appelle. Et ici encore. Mais en même temps, et je crois qu'il est vrai que les juristes et les penseurs musulmans ont commencé à qualifier cette chose, à parler de djihad al-akbar un peu plus tard. On peut dire que c'est un développement plus tardif dans ce cadre-là.
24 months ago, and yesterday in the memory of America, the center of New York City became a battlefield and a graveyard and the symbol of an unfinished war.
Cette notion, ce lien entre l'islam, l'esprit de conquête, le djihad, la guerre, a été perçu dès le départ comme quelque chose, donc une religion portée par la violence, et cela a immédiatement suscité des polémiques.
Oui. Au Moyen-Âge aussi.
Vous citez le commencement de cette polémique, cette prise de conscience donc de l'apparition d'une présence, et d'une présence qui a gagné sur le terrain en menant la guerre, et donc en exerçant la violence. Vous rappelez qu'au 8e siècle, depuis son monastère situé sur la sur la côte de Northumbrie, Bède le Vénérable apprend que les Sarrasins ont conquis une grande partie de l'Asie et de l'Afrique. Perplexe, il a recours à l'étymologie biblique afin d'expliquer la relation permettant d'associer Sarah et Isaac à Agar et Ismaël, ainsi que l'existence d'un peuple connu sous le nom de Sarrasins.